Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, et dans la suite d'une émission qu'on avait tournée il y a à peu près un an de ça, on avait reçu Chantal Mouffe ici pour discuter de ses travaux, j'ai décidé de recevoir deux autres spécialistes du populisme, à savoir Éric Fassin et Lenny Benbara, que je présenterai dans un instant, pour débattre justement de cette question du populisme. Vit-on dans un moment populiste? Est-ce que la stratégie populiste est une bonne façon pour la gauche en France, mais aussi ailleurs, de retrouver des couleurs, au moins au niveau électoral? Quel bilan provisoire peut-on tirer d'expériences telles que celles de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et de Podemos en Espagne? Voilà, c'est ce type de questions que nous allons aborder aujourd'hui. Donc en présence d'abord de Éric Fassin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à Paris 8, spécialiste des questions de genre et de race, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, mais d'un en particulier que je mentionne puisqu'il traite directement du sujet en question, Populisme, le grand ressentiment, dans lequel vous expliquez, je le fais en une phrase et donc de façon trop synthétique, mais vous reviendrez dessus tout à l'heure, que la stratégie populiste est une stratégie inefficace et qu'en plus, elle a l'inconvénient d'effacer la lutte des classes en mettant en avant un espèce de peuple un peu trop homogène, voire même fantasmé. Vous, Lenny Benbara, vous soutenez une thèse, presque opposée, on verra si vous êtes si opposé que ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je lis vos travaux et vos interventions. Je suis venu avec un livre aussi, qui est un ouvrage collectif, dans lequel vous signez un chapitre consacré en particulier à la pensée du philosophe argentin Ernesto Laclau. Vous êtes, et j'aurais dû commencer par ça, le fondateur du site Le Vent se lève, donc un site sur lequel on trouve beaucoup de contributions théoriques, politiques, sur tout un tas de sujets, et notamment, on pourrait dire, j'avais noté comme ça, 50 nuances de populisme. Vous avez fait plusieurs entretiens avec Mouffe, avec Inigo Errejón, qui a été pendant longtemps le stratège de Podemos, avec François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon aussi. Donc vous faites plutôt partie de ceux qui voient dans le populisme une ressource pour sortir la gauche de ses postures minorisantes et de ses défaites à répétition. Et pour lancer la discussion, je voudrais tout de suite vous demander si vous êtes d'accord avec donc moi le constat que je fais, c'est que voilà, depuis quelques années, on va dire 4-5 ans, il y a vraiment un tournant stratégique chez tout un ensemble d'organisations de gauche radicale. On peut penser à la France insoumise et Podemos, on pourrait peut-être penser à d'autres. Tournant stratégique qui s'est traduit par l'adoption donc, de cette stratégie populiste qui se résume, si je vais à l'essentiel, par le fait de dire qu'au lieu de rassembler la gauche et notamment ces différentes organisations partisanes, il faudrait essayer de fédérer ou de construire le peuple. Et donc, pour être un peu plus concret que ça, ça implique de mettre au placard, je ne sais pas, mais en tout cas, de prendre un peu de distance avec les références classiques du mouvement ouvrier, l'international, le drapeau rouge, la faucille et le marteau, et mettre en avant, à la place ou à côté, je ne sais pas exactement, des symboles qui pourraient être plus transversaux, plus englobants, notamment des symboles nationaux aussi, puisque Jean-Luc Mélenchon, comme Pablo Iglesias, font appel à la patrie, à la nation, dans un sens civique plutôt qu'ethnique. Mais voilà, c'est comme ça que je comprends ce tournant populiste. Alors, question à l'un comme à l'autre, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition que je viens de donner? C'est peut-être le point premier. Et si oui, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Est-ce qu'elle vous semble aujourd'hui opportune pour faire face aux nombreux défis auxquels la gauche, ou les gauches peut-être qu'on devrait dire, sont confrontées? Je vous regarde avec Fassin, puisque votre livre était le premier à être paru, et puis on donnera la parole à Lenny Benbara ensuite.
D'abord, merci pour l'invitation et puis je suis content qu'on ait l'occasion de débattre parce qu'à mon sens, il est important qu'il y ait des débats au sein de la gauche sur la stratégie. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'avoir des adversaires, mais aussi de discuter avec des gens qui sont des alliés. Je remarque et j'apprécie que vous avez en fait peu utilisé le mot populisme, mais beaucoup plus l'adjectif populiste. C'est après tout le style populiste où vous parlez de stratégie populiste. Et je crois que c'est une des difficultés quand on parle de populisme, c'est qu'on a tendance à penser que parce qu'il y a un nom, un substantif, eh ben, il doit y avoir une substance. Parce qu'il y a ce mot, il devrait y avoir un concept. Je crois que c'est beaucoup plus, effectivement, à utiliser comme un adjectif, parce que sinon, quand on dit populisme de gauche, eh bien, ça veut dire que populisme, c'est le substantif, et que, donc, de gauche, eh bien, c'est juste un adjectif. C'est second. Et donc, on aurait cette substance qui serait le populisme, avec d'un côté le populisme de droite, de l'autre le populisme de gauche, mais que la substance serait première. Je crois donc qu'il est important de renverser les choses et de partir de l'opposition très classique, mais qui, à mon sens, n'a pas perdu de son utilité, entre droite et gauche. Alors, par rapport à votre question, est-ce que nous vivons un moment populiste et est-ce que cette stratégie populiste est efficace? Il est clair qu'en ce moment, cette stratégie populiste qui était revendiquée à l'extrême droite, eh bien, elle a été retournée, c'est-à-dire qu'elle a été appropriée, en changeant bien sûr son contenu, mais par un certain nombre de partis de gauche. C'est ce qu'on a vu en Espagne avec Podemos, et c'est ce qu'on a vu en France avec la France insoumise. Ce choix stratégique, est-ce qu'il est efficace? Vous l'avez rappelé, pour ma part, je crois que non, et on peut bien sûr discuter plus précisément, mais je crois que, en tout cas, indépendamment de son efficacité, il a un sens, c'est-à-dire que on le voit bien dans l'exemple français, entre la campagne de Jean-Luc Mélenchon entre 2012 et 2017, eh bien, il y a une différence de style qui tient d'abord au fait de ne plus revendiquer l'appellation parti de gauche, de ne plus revendiquer l'appellation front de gauche, de moins mettre en avant l'international, de moins mettre en avant le drapeau rouge et de davantage avoir un drapeau tricolore ou la Marseillaise, mais aussi d'avoir un intitulé qui est la France insoumise. En particulier, ça a impliqué une évolution dans le discours sur l'immigration qui n'est pas tout à fait le même en 2012 et en 2017, puisque en 2012, le discours de Mélenchon sur la plage à Marseille, eh bien, il met en avant le fait qu'il y aurait un peuple méditerranéen, c'est-à-dire que ce peuple, il n'est pas un peuple national, il comprend aussi bien les Italiens, les Espagnols, mais aussi les Arabes, les Berbères. Bref, c'est un peuple qui n'est pas un peuple national. En revanche, en 2017, je crois qu'il y a plutôt l'idée qui se traduit dans le programme de l'immigration, sur l'immigration, qui est de dire que, bien sûr, il ne faut pas être contre les immigrés, et c'est la grosse différence avec un populisme de droite xénophobe. Il y a un refus très clair de la xénophobie. En même temps, il y a l'idée qu'il faudrait créer les conditions pour que les gens puissent rester chez eux. Autrement dit, on n'est pas contre les immigrés, mais on n'est pas forcément pour l'immigration. Donc je crois qu'il y a là des choix stratégiques et la question après de leur efficacité se pose et j'imagine qu'on va pouvoir en discuter davantage.
Je vous laisse continuer un tout petit peu parce qu'en 2017, la France insoumise, bon Jean-Luc Mélenchon plutôt, fait 6 points de plus qu'en 2012. Donc on pourrait les attribuer ces 6 points de plus à ce virage populiste. On pourrait aussi dire que c'est d'autres facteurs. Comment est-ce que... Allez-y, Lénie.
Non, mais bon, déjà, merci aussi. Je vous remercie aussi d'avoir organisé ce débat. Et je suis très content d'être là pour discuter de ces questions stratégiques qui me tiennent beaucoup à cœur. Et moi, j'aimerais juste un peu déplacer le regard avant de parler des stratégies populistes déployées à gauche. Parce que souvent, et là, je le ressens déjà dans le débat, c'est-à-dire qu'on associe en fait la stratégie populiste quand elle est déployée à gauche à un glissement ou à une triangulation vers, disons, des thèmes d'extrême droite. Et du coup, en définitive, on relie ça à un contenu, ce qui n'est pas mon cas. Je crois que, et en partie, la théorie de Laclau le montre, c'est une théorie formelle, une théorie à vocation générale de formation des identités collectives qui peut être utilisée comme un instrument théorique d'analyse pour une série de configurations tout à fait diverses. Et en particulier, je crois qu'un des faits majeurs, c'est aussi l'émergence d'un populisme néolibéral. Et donc, ce point-là, pour moi, est fondamental, car il montre que le déploiement de stratégies populistes n'a pas uniquement lieu aux marges, mais que si on regarde des acteurs comme Emmanuel Macron, comme Matteo Renzi avant lui, comme, d'une certaine façon, Ciudadanos en Espagne, ou il y a un nombre de cas assez impressionnant aujourd'hui, même si on pourrait parler de... Je me souviens plus de son nom... ce nouveau président élu en Ukraine, les stratégies populistes sont déployées dans l'ensemble du champ politique. Ça a une implication assez importante qui est qu'aujourd'hui, il est impossible de construire une frontière politique dans le champ politique et de construire des sujets politiques sans mobiliser une rhétorique où il y a de fait un « eux » et un « nous ». sans mobiliser une rhétorique destituante à l'égard du système en place, ce qu'a fait Emmanuel Macron en 2017. Moi, je me souviens très bien que sa rhétorique sur le vieux système sclérosé qui empêche la France de renouer avec un esprit de conquête, tous ces bureaucrates, tous ces gens qui ont fait carrière dans les partis, il construisait de fait un adversaire qui était une forme de caste. Simplement, il l'a fait d'une façon différente de ce qu'aurait pu faire, de ce que faisait Jean-Luc Mélenchon, de ce que faisait Marine Le Pen. Donc je pense que c'est un point fondamental parce que ça montre que le populisme n'est pas un contenu, mais que c'est la nouvelle donnée centrale dans la politique contemporaine. Et il y a des raisons à cela. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est parce qu'on est entré dans ce que Chantal Mouffe appelle la post-démocratie et dans la dislocation de la cohérence de l'hégémonie néolibérale dans l'émergence de brèches très fortes à l'intérieur de ce système en place et dans la possibilité de le désarticuler et de le réarticuler différemment, y compris pour des acteurs issus eux-mêmes du système qui sont obligés, pour se maintenir au pouvoir, de diriger la colère et la frustration vers le système. Donc voilà, je pense que c'est un point fondamental qu'il faut poser dès le début parce que sinon il est difficile de discuter sur, les stratégies qui peuvent être mobilisées à gauche.
Vous êtes d'accord avec ça? Parce que si je résume en deux phrases, c'est cette idée que on est passé d'un moment néolibéral des années 80, 90, 2000 à un moment populiste et que dans ce moment populiste, finalement, tout acteur politique et toute force politique, qu'elle soit de droite, de gauche, du centre, peu importe, est presque contrainte par le moment historique dans lequel nous vivons, à intervenir sur un mode populiste. Donc ce ne serait même pas de l'ordre du choix, ce serait une coordonnée.
En tout cas, si elle veut réussir, et tous les acteurs qui ne le font pas, tous les acteurs qui mobilisent des stratégies traditionnelles, sont en chute électorale partout en Europe. Donc pour moi, c'est la preuve que de fait, ces stratégies-là démontrent qu'elles sont nécessaires, au sens quasi philosophique, dans le moment politique actuel.
Ouais.
Je serais d'accord sur un point, mais en désaccord sur un autre. Le point d'accord, c'est sur le fait que, effectivement, la rhétorique populiste ou la stratégie populiste, ça peut servir à une chose et à son contraire. Vous avez dit, par exemple, que Macron peut se l'approprier. Ça veut dire qu'il me paraît compliqué de défendre l'idée, comme c'est souvent le cas, que c'est une réaction au néolibéralisme, puisque ça peut être approprié par le néolibéralisme. Aujourd'hui, quand on regarde l'élection de Trump ou l'élection de Bolsonaro, eh bien leur populisme est au service du néolibéralisme. Donc il me paraît très difficile de considérer que le populisme serait une réaction contre le néolibéralisme, alors que c'est un instrument qu'on retrouve chez tous les populistes de droite aujourd'hui, mais qu'on trouvait déjà à l'origine avec Margaret Thatcher ou avec Ronald Reagan, qui étaient à proprement parler des populistes néolibéraux. Donc je crois que c'est la première chose. Ça peut servir à tout, mais ça sert en particulier au néolibéralisme. Et à mon sens, la question, c'est de savoir est-ce qu'on est contraint de se rallier à ce moment ou bien est-ce qu'on a intérêt, quand on est de gauche, à le combattre. Je crois que ce que tout le monde sait bien, c'est l'importance de la formule, du mantra de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Eh bien, je crois que ce qu'il faut, c'est produire de l'alternative. Et sur ce point, je partage entièrement la critique qui a été formulée par Chantal Mouffe contre, disons, le ralliement des sociodémocrates au néolibéralisme et les conséquences en termes de post-démocratie. Sur ce point, moi-même, de mon côté, j'ai essayé de développer des analyses comparables dans un petit livre sur la gauche il y a quelques années. Donc, je suis entièrement d'accord sur ce point. Le problème, c'est que justement, si on veut produire une alternative, eh bien, quelle est la nature de cette alternative? C'est forcément une alternative idéologique. Donc, il ne suffit pas de dire qu'il y a des groupes sociologiques différents, eux et nous, les élites et le peuple, ou la caste et les gens. Ça, ce sont des groupes sociologiques, ça ne fait pas une alternative. Une alternative, eh bien, ça suppose de l'idéologie, ça suppose des contenus, ça suppose pas simplement des formes. Et donc, il me semble que, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que l'opposition entre droite et gauche, et que ceux qui ont intérêt à ce qu'existe cette alternative idéologique, c'est les gens de gauche. Parce que les gens de droite, ils n'ont pas besoin de l'opposition entre droite et gauche, parce qu'ils n'ont pas envie de changer le monde. Et les gens d'extrême droite, au contraire, ils souhaitent dire ni droite ni gauche. Donc je crois qu'il est très important dans un monde où, qui n'est pas seulement celui du moment populiste, mais qui est celui d'un moment néo-fasciste, il est très important de ne pas contribuer à la confusion entre droite et gauche qu'alimente l'extrême droite.
C'est un point vraiment intéressant parce que ça soulève la question du clivage gauche-droite qui, bon, peu importe d'ailleurs qu'on considère que ce clivage se soit érodé ou pas, en tout cas la proposition stratégique que vous posez, c'est qu'il faut recharger, réinvestir de sens ce clivage gauche-droite en revenant, bon, à ce qui constitue le contenu et les fondamentaux de la gauche, l'égalité des droits, la justice sociale, l'internationalisme, c'est comme ça que je le comprends. Qu'est-ce que...
Pour en venir à la question de la gauche et à la question du contenu qu'on met, de mon point de vue, je pense que évidemment qu'il y a toujours des clivages politiques, évidemment qu'il y a toujours des différences programmatiques, des différences de projets. Mais je pense qu'en fait, la simple différence, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de porter non pas sur est-ce qu'il faut voter à gauche ou à droite, mais sur comment est-ce qu'on va construire le peuple. Et je pense que l'enjeu fondamental désormais, c'est quelle vision du peuple on va réussir à imposer. Et c'est pour ça que ces stratégies populistes sont aussi pertinentes. C'est parce qu'en fait, en interpellant directement un sujet populaire, en cherchant à articuler une série de demandes hétérogènes dans la société et à leur donner une forme à travers notamment un leader qui est censé être l'incarnation même de ce que la CLAO appelle une chaîne d'équivalence, on pose d'emblée l'enjeu de la définition de ce qu'est ce sujet-là. Et je crois que dans une époque où les incertitudes, où le néolibéralisme a produit toute une série de crises identitaires, sociales, politiques, de crises du lien social, en fait, de crises de l'affiliation à des institutions et à des structures sociales de façon générale, et c'est pour ça que je parlais de dislocation de l'hégémonie néolibérale, la question fondamentale est comment on va reconstruire le lien social et comment on va reconstruire, en particulier dans le champ politique, le lien politique entre les représentants et les représentés, et il n'y a pas de représentants sans peuple. D'où la centralité de ce sujet, du peuple, et je pense que l'enjeu désormais n'est plus entre la gauche et la droite, mais quelle vision du peuple on propose. Et c'est là que le contenu vient se nicher. De mon point de vue, je pense qu'il faut construire le peuple sur un mode égalitaire, démocratique, à partir d'une conception avancée de ce qu'est la justice de façon générale et de la dignité, alors qu'à l'inverse, vous parliez de l'extrême droite va le construire sur un mode régressif, sur un mode beaucoup plus fermé. Et en ce qui concerne les néolibéraux, ils vont juste essayer de détruire, de continuer à détruire toute forme de sujet populaire. Donc je pense que l'enjeu s'est déplacé. Au fond, l'enjeu n'est plus entre la gauche et la droite, et il se place désormais sur ce terrain-là. Et c'est pour ça que ces stratégies sont si pertinentes.
Mais je pense que notre divergence porte peut-être sur un article. C'est-à-dire que vous dites construire le peuple. Moi, je dirais construire un peuple de gauche. Ça fait une différence parce que si vous dites que l'opposition entre droite et gauche, finalement, elle est seconde, voire même dépassée, ce que je crois vous suggérer, eh bien, ça veut dire que l'idée, c'est de construire le peuple comme une totalité. Moi, je pense qu'il s'agit plutôt de construire un peuple de gauche, c'est-à-dire que la politique, c'est toujours définie par la politique démocratique depuis la Révolution française, on pourrait dire, depuis le XVIIIe siècle, eh bien, c'est une politique qui est construite sur des peuples différents, sur des conceptions différentes du peuple. Et si ça n'est pas une différence entre un peuple de gauche et un peuple de droite, eh bien, c'est quoi ? Moi, je suis, de ce point de vue, assez inquiet, parce que si on ne met pas en avant cette opposition entre droite et gauche, il faudra bien dire qu'est-ce qu'on met en avant. Alors si c'est pour dire l'égalité, ben alors pourquoi ne pas dire la gauche ? Donc je ne vois pas bien l'avantage. Et à mon sens, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la stratégie populiste enregistre en quelque sorte la désaffection pour l'opposition entre droite et gauche et l'entérine.
Qui est ultra majoritaire dans le pays tout de même.
Tout à fait. Mais ça veut dire qu'on considère que la politique doit refléter l'opinion. Moi, j'ai le sentiment que la politique doit produire. Si elle veut construire un peuple, il faut bien qu'elle produise une vision du monde et qu'elle transforme. Si aujourd'hui, il y a une désaffection pour l'opposition entre droite et gauche, qui est réelle, qui est avérée, eh bien, c'est parce que la gauche n'a pas été de gauche. Donc, est-ce qu'il suffit de ne plus parler de gauche et de droite pour avoir réglé le problème ? À mon sens, on l'aggrave.
Là, je pense qu'on arrive au moment du désaccord, puisque, au fond, si on regarde ceux qui sont réellement de gauche, ils n'ont pas eu forcément plus de succès en montrant leur étendard et en le portant fièrement de façon déployée. Je pense qu'il ne suffit pas de dire que l'échec de. Comment dire qu'on est arrivé à cette situation-là parce que la gauche n'a pas été de gauche, ça ne suffit pas. Et pour revenir sur votre point précédent sur le fait de produire de l'opinion, de produire de l'idéologie, vous avez raison. Cependant, on ne peut pas produire une vision du monde, au fond, si celle-ci ne s'ancre pas elle-même dans le sens commun. Et ce sens commun qui est devenu extrêmement dur sur la question du clivage gauche-droite, et le terrain à partir duquel on doit construire, on doit faire avec. Moi, je veux bien, si on avait autre chose, si on avait une autre matière à partir de laquelle construire, j'envisagerais évidemment d'autres stratégies. Donc, et la question du contexte est ici fondamentale. Mais en l'occurrence, on doit faire avec ce nouveau terrain. Et les Gilets jaunes ont démontré de façon extrêmement éclatante que le rejet à l'égard du clivage gauche-droite ne conduisait pas nécessairement, justement, à un rejet des idéaux d'égalité, de dignité, de justice sociale. Et donc, s'il faut le mettre au placard, autant le mettre au placard et se concentrer sur le contenu. Donc, et là, je crois qu'on arrive effectivement au désaccord. Et parce que, concrètement, dans la pratique politique au quotidien, de fait, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix parce que le peuple rejette la gauche. Et donc, si on s'attache uniquement à des métaphores, et qu'on en perd en définitive l'efficacité pratique et politique, on ne va nulle part.
Peut-être juste que le contexte national est important ici, parce qu'effectivement, si on se concentre sur les cas de la France et l'Espagne, on constate des progressions électorales de Iglesias comme de Mélenchon à un moment qui coïncide avec l'idée de remplacer, pour le dire très vite, un petit peu la gauche par le peuple. Mais si on se tourne par exemple vers Corbyn, qui a fait comme ça, qui a réussi en s'appuyant sur la base militante du Parti travailliste à s'emparer de cet appareil et à redonner un coup de barre à gauche. Ou si on regarde même Sanders, bon, qui est quand même passé pas très loin lors de la dernière primaire démocrate, qui est encore dans la course pour la prochaine, là, on a quand même des stratégies assez différentes. Corbyn comme Sanders ont, eux, pour le coup, réaffirmé leur ancrage dans une tradition socialiste, même parfois dans une phraséologie
et
marxiste.
Parle de socialisme.
Et réussissent, pour le coup. Et parlent de socialisme, effectivement, pas de gauche. Mais là, voilà, il y a quand même une identité socialiste qui est clairement affirmée, alors que bon, Mélenchon et Iglesias, eux, l'ont un peu fait refluer.
Moi, je pense qu'effectivement, vous aviez posé tout à l'heure la question de l'efficacité, et vous l'avez reposée à nouveau en disant cette stratégie de gauche, manifestement, elle marche pas très bien. C'est vrai. Après, ça dépend des pays. Très clairement, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, pour l'instant, c'est que le Parti démocrate considère que son recentrage permanent a fini par le conduire à la déroute et donc est en train, alors on verra ce que ça donne dans les élections présidentielles, mais pour l'instant, il est en train de faire une place importante à une politique de gauche. Et je crois qu'effectivement, le cas du Royaume-Uni est comparable. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que l'autre stratégie, la stratégie populiste, de gauche a été payante. Vous posiez la question pour la comparaison 2012-2017 et le fait que, effectivement, presque 8 points de plus pour Mélenchon, ce qui est beaucoup. Est-ce que c'est l'effet de la stratégie populiste ? Bah, c'est quoi la stratégie populiste ? C'est l'idée qu'on va essayer de récupérer ces électeurs égarés dans le populisme de droite. Or, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que la composition de l'électorat de Mélenchon en 2017, c'est son électorat de 2012 plus les déçus de François Hollande. Il n'y a personne qui vienne du camp de la droite traditionnelle, bien sûr, mais il n'y a personne qui vienne du camp de l'extrême droite, de même que d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a longtemps raconté, le gaucho-lepénisme, c'est-à-dire les gens qui sont des déçus du communisme et qui se retrouvent ensuite à l'extrême droite, bah, c'est largement une fiction. Donc, il n'y a pas de porosité entre ces électorats et la réalité, c'est que le vote utile a basculé à gauche entre 2012 et 2017 grâce ou à cause de François Hollande, c'est-à-dire que effectivement, il était devenu impossible de se dire que le vote utile, c'était le vote socialiste. Et on voit bien, en revanche, que pendant toute la campagne, le total dans les sondages Hamon plus Mélenchon ne bouge pas. Simplement, c'est un transfert de voix d'un côté à l'autre. Donc je crois que la stratégie populiste n'a pas marché, de ce point de vue, même si il y a eu, bien sûr, un progrès considérable, mais il est dû non pas à des transferts de voix de l'extrême droite à la gauche, mais à des transferts internes à la gauche.
On touche un point important. D'ailleurs, je me permets d'ajouter qu'en Espagne aussi, hein, l'émergence de Podemos s'est faite en grande partie, en tout cas quand on regarde en 2014 et 2015, leurs premiers électeurs, il y en a 2 millions qui sont des abstentionnistes, qui étaient auparavant aussi des déçus du Parti Socialiste, qui sont revenus. Mais voilà, ça pose la question de la cible électorale privilégiée pour faire grossir effectivement tout simplement les rangs et accéder au pouvoir. Votre regard là-dessus, Lénie
Benbar ? Oui, juste pour... Un mot très rapide sur les États-Unis et sur le Royaume-Uni, qui sont des cas au fond assez différents, parce que l'identité de gauche est encore très présente au Royaume-Uni et elle est favorisée aussi en particulier par le système électoral et qui de fait favorise la division en deux de la Chambre. Et donc,
comme aux États-Unis.
Oui. Mais aux États-Unis, les traditions de gauche et de droite sont beaucoup moins fortes, au fond. Et si on analyse bien la rhétorique de Sanders et celle d'Ocasio-Cortez, par exemple, au fond, le mot « gauche » n'apparaît jamais, quasiment jamais. Et à l'inverse, je crois qu'ils construisent la frontière politique de façon populiste. Mais pour fermer cette parenthèse et revenir à la France, et revenir en particulier sur l'élection de 2017, parce que vous avez raison, au fond, d'y revenir, puisque les stratégies s'analysent aussi dans leurs effets. Je pense qu'on a un désaccord sur l'analyse de cette élection, parce que si c'est vrai qu'il n'y a pas eu de transfert massif de l'électorat de Marine Le Pen vers l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, il a quand même grappillé des points non négligeables dans l'électorat flottant qui ne savait pas comment il allait voter avant l'élection et qui potentiellement allait voter Marine Le Pen, en particulier sur plusieurs segments tels que les ouvriers et les jeunes, puisqu'au début de l'élection, Marine Le Pen était donnée à 37% chez les primo-votants. Elle ne fait que 22%. Mélenchon était donné très bas et fait 30%. Il en va de même pour les inactifs et les chômeurs. Donc sur des segments précis, très, très dégagistes et très volatiles, il a permis de rogner un petit peu l'espace de l'extrême droite. Et je crois que la réalité, c'est qu'on est plutôt sur trois quarts d'électorat de gauche traditionnel, au sens sociologique, mais que par ailleurs, cet électorat de gauche lui-même ne s'identifie plus forcément avec les codes de la gauche. Et donc... n'est pas identitairement de gauche, puisque, on l'a rappelé tout à l'heure, le rejet du clivage gauche-droite est ultra-majoritaire dans l'électorat, et ça concerne aussi l'électorat de gauche, au fond, et que on ne doit pas uniquement juger la stratégie déployée par Mélenchon sur sa capacité à rassembler des voix au premier tour, puisque l'enjeu précisément de la stratégie populiste, c'est aussi de se positionner de façon transversale et de se positionner de façon à gagner une majorité dans un second tour. Et là, il faut beaucoup plus regarder les législatives. Et je crois qu'elles sont très intéressantes de ce point de vue, puisque l'espèce de sympathie transversale qu'avait réussi à créer Jean-Luc Mélenchon lui avait permis d'obtenir des bons reports, pas seulement du côté d'ailleurs... de l'extrême droite. Je pense qu'il faut arrêter de voir la stratégie populiste en France uniquement comme un moyen de raccrocher des électeurs d'extrême droite. Pour moi, il faut d'emblée poser une espèce de chaîne d'équivalence qui irait d'une partie de l'électorat macroniste flottant et dégagiste qui avait voté un petit peu Macron par défaut et parce qu'il pensait que, par exemple, il allait être le mieux placé pour faire barrage à l'extrême droite, mais et aller justement jusqu'à ses couches potentiellement tentés par l'extrême droite, mais qui peuvent être amenés, et en passant par les abstentionnistes, par l'électorat de gauche. Et donc c'est vraiment une espèce d'alliance très large qu'il faut constituer, et pas uniquement chercher à les trianguler sur l'extrême droite pour ramener ses électeurs. Mais pour revenir aux législatives...
Ce qui, vous l'aurez compris, n'est pas ce que je propose le moins du monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait trianguler.
Non, bien sûr, j'ai très bien compris.
Je voudrais juste être sûr qu'il n'y ait pas de
malentendu. Oui. Non, mais en général, c'est le procès qu'on fait à ceux qui défendent la stratégie populiste. Et en tout cas, ce n'est pas mon point de vue. Mais juste pour revenir sur les législatives, on voit que les reports de la France insoumise sont très bons et qu'elles bénéficient d'une sympathie transversale. De même dans l'opinion avant le premier tour, ou dans les enquêtes d'opinion, on voit qu'il y a une part non négligeable de l'électorat assez, hormis l'électorat de Fillon, d'ailleurs, qui est composé essentiellement de retraités, assez bien réparti dans l'ensemble du spectre, qui prenait Jean-Luc Mélenchon comme second choix. Et ça, c'est fondamental, parce qu'en définitive, pour gagner, il faut 51% des voix.
Oui, allez-y. Après, on ira vers la question du leader, parce que vous l'avez mentionné, mais on n'a pas encore creusé. C'est un point qui m'a...
Peut-être un mot quand même sur quel est le public qu'on vise, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Vous dites, ne pensons pas tout le temps à l'extrême droite. Je crois qu'il est malgré tout très important de voir que l'extrême droite est une menace qui pèse aujourd'hui sur la société en France et dans beaucoup de pays. Y compris, elle est au pouvoir aux États-Unis, elle est au pouvoir en Hongrie, elle est au pouvoir au Brésil, etc. Donc, pour moi, c'est une référence qui doit organiser notre réflexion. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va, lorsqu'on pense aux élections, privilégier la référence à ceux qui votent déjà ou aux abstentionnistes ? Et ça induit des stratégies tout à fait différentes. Parce que si on se dit « je veux gagner des électeurs parmi ceux qui sont déjà ici ou là, etc. » effectivement, sauf à faire ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire des transferts de voix internes à la gauche, eh bien il va falloir essayer de conquérir des électeurs qui jusqu'à présent ont voté à droite, il n'y en aura pas beaucoup, mais à l'extrême droite, et à mon sens, il n'y en aura pas beaucoup non plus. Mais ça aura été coûteux, parce que ces électeurs qui votent à l'extrême droite, qu'à mon avis, on n'arrivera pas à récupérer, et donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse de l'élection de 2017, d'après les sondages dont on peut disposer, c'est peut-être vrai pour des catégories sociologiques, mais pas pour des catégories politiques, c'est-à-dire que les électeurs de Marine Le Pen n'ont pas, de 2012, n'ont pas voté pour Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, elle a progressé.
Mais elle commence à 28 dans les sondages, elle finit à 21.
Oui, mais là, vous parlez de sondages, moi je compare l'élection de 2012 et l'élection de 2017. Elle a progressé entre 2012 et 2017. Sûr. Donc je crois que c'est quand même le fait majeur. On ne va pas dire on a réussi à la faire reculer quand elle a progressé. Donc ça, c'est la première chose. Mais si on s'adresse aux abstentionnistes, on s'aperçoit que ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils sont davantage jeunes, ils sont davantage de classe populaire et ils sont davantage d'origine étrangère ou bien, disons, assignés à des positions racialisées. Je crois que on ne tient pas tout à fait le même discours si on a en tête de récupérer ceux qui votent déjà et ceux qui ne votent pas. Je crois qu'il faudrait commencer par s'intéresser à ceux qui ne votent pas. Et à ce moment-là, on tiendra beaucoup moins un discours sur la nation. Parce que la nation, elle a beaucoup été utilisée comme une rhétorique pour exclure des gens, pour dire « vous n'êtes pas vraiment français, vous ne chantez pas assez la Marseillaise ». Donc je crois qu'il est important de partir du fait que cet électorat potentiel d'abstentionnistes, il est très important parce que les abstentionnistes, ce sont des gens qui sont très politiques, c'est-à-dire qui expriment un dégoût de la politique. Moi, je fais l'hypothèse que si on dit aux gens « la politique », eh bien, c'est des oppositions de valeurs, et ces valeurs, elles renvoient à l'idéologie entre la droite et la gauche, on aura plus de chances de séduire des abstentionnistes que si on essaie, en quelque sorte, de noyer le poisson dans l'espoir d'en récupérer ici et là.
Alors, on pourrait poursuivre, c'est vrai, assez longtemps, elle est passionnante, cette discussion de sociologie électorale. Je pense qu'il faut lier la théorie politique et la sociologie électorale, mais j'aimerais amener sur la table la question quand même du leader, et même du leader charismatique, parce que ces expériences populistes, qu'elles soient d'ailleurs proto-fascistes, ou bien de gauche, ou même du populisme néolibéral, du style Macron ou d'autres, on a quand même, j'ai le sentiment, de manière récurrente, je ne sais pas si c'est systématique, mais cette présence du leader charismatique, c'est même théorisé chez Ernesto Laclau, et vous y revenez dans votre texte. Et voilà, ça pose question, parce que d'un côté, effectivement, ça peut être une force d'entraînement, ça peut être un atout aussi à jouer pour l'emporter dans les urnes et abattre ses cartes dans un jeu médiatique qui repose en grande partie sur la personnalisation de la politique et la capacité à faire des performances comme le font ses leaders. Donc, on voit les avantages que ça peut avoir, au moins à court terme et en termes de rentabilité électorale. Et en même temps, est-ce que cette présence d'un leader comme ça, charismatique, ça n'entre pas en contradiction avec l'idée d'auto-émancipation, de travailleurs qui s'émanciperaient eux-mêmes, comme le disait Marx, d'auto-organisation. Est-ce que ça ne vient pas aussi, introduire dans une logique de remise de soi, finalement, d'une base qui resterait atone ou en tout cas se contenterait d'aller voter pour son leader Et finalement, ça pose aussi la question de la rue, du rapport aux mouvements sociaux. Voilà. Comment est-ce que, quel regard vous portez l'un et l'autre sur cette question ?
On en revient au point que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on construit à partir de ce qu'on a en termes de technologie politique, en termes de ressources discursives à disposition et en termes de sens commun. Aujourd'hui, on fait de la politique, on en fait à partir d'un terrain qui est médiatisé, avec des réseaux sociaux qui sont de plus en plus importants et en particulier qui favorisent la désintermédiation du politique et des logiques qui relèvent beaucoup plus de l'incarnation et beaucoup moins du corsetage institutionnel type XXe siècle avec des syndicats, des partis pyramidaux, etc. On est entré dans une époque qui favorise précisément des relations verticales sur le plan de l'identification politique entre le leader et sa base. Et on le voit avec toute une série de phénomènes qui ont émergé, en particulier aux États-Unis, par exemple, avec Ocasio-Cortez, qui quand même a percé dans le débat politique extrêmement rapidement. Et je ne crois pas qu'elle ait provoqué de la passivité. Au contraire, elle a réussi à déplacer le terrain et à modifier l'agenda, elle a modifié de ce dont on parle en mettant en avant toute une série de questions, à la fois économiques, sociales, de discrimination aux États-Unis. Et de ce point de vue, on voit que l'émergence de leaders permet de bousculer le champ politique. Après, c'est sûr que ça a des contre-coups aussi, puisque quand le leader disparaît, de fait, l'identité politique construite se désagrège, perd en force, et c'est donc un risque sur le plan électoral, et ça, je ne vais certainement pas le nier, puisque je pense que c'est une donnée fondamentale avec laquelle il faut composer. Mais en tout cas, dans la période actuelle, il n'est pas possible de percer dans le champ politique et de le modifier de façon substantielle sans avoir une incarnation adéquate. Après, la question est comment on agence la relation du leader avec le sujet qu'il incarne. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut se poser la question. Et je crois que le débat n'est pas du tout fermé, qu'il est même ouvert. Mais je pense que la donnée est qu'on a besoin, de fait, de leaders médiatiques, politiques, dans tous les champs qui nous intéressent ici.
Je crois qu'il y a une question politique qui est de savoir de quoi on parle. On parle des élections. Donc effectivement, quand il y a des élections, elles sont incarnées par des personnes. Cela dit, premièrement, il n'y a pas que les élections, il y a des mouvements sociaux, vous avez parlé des Gilets jaunes, qui manifestement ont plutôt refusé les leaders, charismatiques ou pas. Et d'autre part, non seulement il n'y a pas que les élections, il y a des mouvements sociaux, mais même dans le débat politique, je crois qu'il y a un biais français où on a tendance à tout penser par rapport à l'élection présidentielle. La constitution de la Ve République amène à hyper-valoriser la figure de l'homme politique providentiel, puisque la formule toujours utilisée en France, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple dans l'élection présidentielle. Si vous prenez l'exemple de l'Espagne, que vous connaissez mieux que moi, Podemos, ça n'était pas une seule personne. Ça en était plutôt deux. Il y avait deux noms propres, Iglesias et Errejón, qui étaient très visibles. Si vous prenez l'exemple d'Ocasio-Cortez, comme vous venez de le faire, aux États-Unis, ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas elle le leader. Elle n'est pas candidate à l'élection présidentielle. Donc ça montre bien qu'il y a une pluralité de visages. Qu'est-ce qui se passe
c'est
en
possible,
ce moment
hein. C'est
voilà.
Tout à fait possible.
Mais je crois que justement, l'exemple des États-Unis en ce moment nous montre une prolifération de figures que j'appellerais de gauche, vous dites il préfère utiliser le mot socialisme, vous avez raison, mais malgré tout, c'est socialisme plutôt que populisme. Et le socialisme, historiquement, a plutôt une histoire de gauche, ouais, me semble-t-il.
C'est pas un contenu, mais bon.
Quand même, ça n'est pas la même chose. Donc je crois que, en fait, premièrement, en politique, on n'est pas obligé de penser avec la figure du chef. C'est un effet de régime non parlementaire. C'est ce qui donne Trump en tant que président. C'est ce qui donne Erdogan, etc. Je crois que on peut se dire qu'il y a plusieurs figures et que la très grande visibilité de Ocasio-Cortez aux côtés de Bernie Sanders en est une illustration. Mais ensuite, en dehors du champ politique, parce qu'il n'y a pas que les élections dans la politique, je crois qu'on a intérêt à penser au fait que la politique ne se réduit pas aux élections et que s'il y a des mouvements sociaux, ils ne se reconnaissent pas dans des leaders charismatiques très souvent et que donc on ne doit pas penser, parce que justement quand on dit le peuple, construire le peuple, on le pense uniquement à partir des élections. Je crois qu'il est très important de ne pas réduire la politique aux élections, même si c'est notre point de départ et le mien aussi dans cette discussion lorsqu'on parle du populisme.
Justement, pour rebondir sur les mouvements sociaux, prenez Greta Thunberg. Tout de même, on était ici vraiment dans une logique d'incarnation quasiment pure et elle représentait une forme de signifiant vide au départ pour l'ensemble des luttes écologistes quasiment dans le monde entier. Et on était vraiment justement dans une logique
vide.
De...
C'est
au
pas
fond,
très
chacun
vide,
y mettait ce qu'il voulait.
Elle dit des choses assez précises.
On
sait ce qu'elle incarne, non ?
Bien sûr, mais son identité s'est précisée au fur et à mesure qu'elle faisait des interventions. Au départ, elle incarnait quelque chose d'assez vague, mais une demande très large pour l'écologie. Après, quand on parle de signifiant vide, c'est plutôt le lexique utilisé par la CLAO. Mais tout ça pour dire que les phénomènes de leadership émergent aussi dans le champ des mouvements sociaux. Les gilets jaunes dont vous parliez ont aussi produit des leaders à leur mesure, c'est-à-dire qu'avec une relation entre représentants et représentés qui n'est pas la même que dans le champ politique et qui n'est pas forcément une relation militaire de chef vers ses subordonnés. Mais ils ont quand même produit, à un moment donné, ils ont eu besoin de porte-parole médiatique et donc c'était des formes de leadership agencées différemment.
Mais qu'il y ait des représentants, nous sommes bien d'accord, il y a souvent des représentants, même si pour le coup, les gilets jaunes, c'est plutôt moins que d'habitude. Mais il y a des représentants. Mais représentant, c'est une chose, leader charismatique, c'en est une autre. Encore une fois, le fait qu'on confonde les deux me paraît un biais lié à la Ve République en France.
Alors, il y a juste, je vous invite, parce qu'on va arriver bientôt sur la fin de cette émission, il y a une question qui a été aussi, je pense, remise sur le tapis par la théorie populiste, notamment de Mouffet-Laclos, même si ce n'est pas les seuls et ce n'était pas les premiers à insister sur cette dimension. Mais c'est de dire, dans le combat politique, il faut prendre en compte la dimension des affects. C'est pas uniquement la politique, une question d'idées, d'arguments. C'est même pas non plus seulement une question d'intérêt ou de calcul. Mais voilà, il y a vraiment une charge affective. Et cette idée, un peu philosophique, je crois qu'elle s'est quand même traduite dans toutes les campagnes politiques dont on a parlé, par une forte dimension affective. Ça pouvait parler à différents affects, aussi bien l'indignation, la révolte et la joie que la colère, le ressentiment et la peur. Mais ça, c'est un constat que vous faites aussi tous les deux, qu'il faut réinvestir les affects ou qu'en tout cas, ils ont été réinvestis et notamment par ceux qui se revendiquent de stratégie populiste.
En France, c'est quasiment un objet de polémique, ce réinvestissement dans les affects, puisqu'on est un pays assez cartésien et où la gauche, depuis longtemps, est extrêmement rationaliste. Même si elle a toujours, dans ses moments historiques les plus importants, mobilisé des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Elle a cherché à les articuler, à les relier à des discours. Au fond, les affects ont toujours été présents. Il n'y a pas d'opposition entre la raison et l'affect. Les travaux de Lordon le montrent très bien. La raison est souvent aussi cristalliser affectivement, d'une certaine façon.
Même beaucoup de travaux féministes aussi insistent sur la nécessité de dépasser cette opposition entre rationalité et émotion.
Et donc la question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce qu'il faut jouer plutôt sur les affects ou sur la raison des gens, mais plutôt comment on articule ces deux dimensions. Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'on ne peut pas revenir à un discours de démonstration rationnelle que le capitalisme, c'est pas bien, ça, c'est mal, et regardez, votre intérêt, c'est juste en refaisant tous les schémas décrits dans le Capital, et regardez, votre intérêt, c'est de vous soulever contre le Capital. Je pense que ce discours-là, effectivement, ne connecte pas avec les affects qui, à un moment donné, aujourd'hui en tout cas, sont majoritaires dans le pays. Donc il faut toujours, quand on veut prendre en compte les affects, se poser la question de quelles sont les aspirations majoritaires et comment on va les interpeller. Pour parler de l'Espagne que vous avez évoquée, c'est assez intéressant parce qu'il peut y avoir aussi des styles différents dans la façon dont on interpelle les affects. Vous parliez tout à l'heure d'Iglesias et d'Errejón. Iglesias souvent le fait par énumération de catégories qui seraient concernées par le même problème et par la même émotion. Et Errejón, à l'inverse, ne mobilise pas de sujets sociologiques précis et interpelle des émotions. vous qui, par exemple, avez peur chaque fois que vous vous rendez au travail, ou vous qui subissez, enfin qui ressentez un type de sentiment précis dans des situations inacceptables. Ce type de discours a bien fonctionné, et en particulier au début de Podemos, et l'espèce de combinaison entre ces deux dimensions d'Iglesias et d'Elejón fonctionnait au fond assez bien. En France, je pense qu'on doit réinvestir cette capacité à interpeller des émotions et à interpeller, qu'elles soient positives ou négatives, et ne pas juste chercher à faire des démonstrations. Et je pense qu'effectivement, on est encore un peu trop dans un discours rationaliste qui, sur toute une série de sujets, hein, qui nous empêche de connecter aux aspirations majoritaires dans le pays.
Je vous donne la parole. Juste, j'ouvre une parenthèse, c'est pour être sûr qu'on est bien d'accord que ces forces qui se disent populistes de gauche, parce que vous avez parlé de capitalisme, mais il me semble qu'elles ne sont pas, strictement parlé, anticapitalistes. Elles ne sont pas pour la sortie du capitalisme, elles sont pour un capitalisme, bon, voilà, plus régulé, plus keynésien. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'entends leurs différents programmes politiques. Mais bon, je vous laisse répondre.
Sur la question des affects, je partage avec vous et avec Chantal Mouffe la critique d'une vision de la politique qui était portée par Tony Blair et d'autres, qui était une sorte de vision raisonnable, rationnelle de la politique, qui participait de cette dépolitisation post-démocratique que critique à juste titre Chantal Mouffe, parce que ça veut dire que la politique, ce serait juste une gestion au mieux de la rationalité et d'une manière raisonnable de la société. Donc, nous sommes bien d'accord là-dessus. Le point sur lequel je m'écarte un petit peu, non pas de ce que vous avez dit, mais de l'analyse de Chantal Mouffe, c'est que j'insiste sur le fait que non seulement il s'agit d'affect, si on ne veut pas reconduire l'opposition entre raison et émotion, mais surtout, ce pluriel, il est très important de le penser. Et de le penser, de mon point de vue, politiquement, c'est-à-dire à travers l'opposition entre gauche et droite. Et c'est un des points que j'essaie de mettre en avant, c'est l'idée que les affects des populistes de droite, c'est-à-dire de l'extrême droite, ne sont pas les mêmes que les affects de gauche. Ce qui explique que ça ne passe pas si facilement d'un côté à l'autre. Et en particulier, je distingue entre le ressentiment et l'indignation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de ne pas être content du monde tel qu'il va pour que ça donne la même chose. D'un côté, on va trouver qu'il y en a d'autres qui sont des privilégiés, qui jouissent à ma place, et parmi ces privilégiés, on va compter aussi les chômeurs qui touchent des allocations parce que ce serait des assistés, mais aussi les Roms parce que, après tout, ils nous empêchent de... etc. Donc, d'un côté, ce ressentiment, et de l'autre, l'indignation sur le fait que le monde est injuste, et pas simplement parce que moi-même, je ne suis pas à la place où je voudrais être, mais quand bien même je serais privilégié moi-même, ça ne veut pas dire que le monde est juste. Donc pour moi, le ressentiment est fondé sur un désir d'inégalité, alors que l'indignation, elle est fondée sur un désir d'égalité. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est très important de penser politiquement, c'est-à-dire à travers l'alternative entre droite et gauche, la différence des affects. Et l'enjeu pour moi, et j'y insiste parce que c'est central à mes yeux, c'est de ne pas se tromper. Nous ne vivons pas seulement un moment populiste, qui finalement voudrait dire que tout le monde peut utiliser cette rhétorique. Nous vivons un moment néo-fasciste. Et il est très important dans le monde de Trump, de Bolsonaro et de tous les autres, il est très important de ne pas se tromper, c'est-à-dire de ne pas contribuer à produire un monde où on se dirait que finalement l'opposition droite-gauche est secondaire, parce qu'elle est seconde, et ça, je crois que malheureusement, ça contribuerait à une confusion qui est favorable à ce moment néo-fasciste.
Alors, on va arriver vers la fin de cet entretien. J'ai gardé une dernière question qui n'est pas la plus simple, mais qui me tient vraiment à cœur. On voit, hein, aussi depuis tout à l'heure, à travers deux ici représentants intellectuels de la gauche, que la question du populisme fait clivage. Et en même temps, vous en discutez de manière extrêmement sereine et argumentée. Je vous en remercie. Il y a d'autres questions qui font clivage à gauche. Et notamment, il y en a une, c'est la question de l'islamophobie. Il y a eu le 10 novembre dernier cette marche dont on a beaucoup parlé, avec ceux qui y sont allés, ceux qui y sont pas allés. J'ai noté, alors... que Vous, Lenny Ben Barra, vous aviez signé au départ, en 2016, je crois que c'était le manifeste du printemps 2015, le manifeste du printemps républicain, en tout cas, voilà, 2016. Issu, en partie, pour résumer, aller à l'essentiel, d'un certain nombre d'anciens valsistes, donc qui s'alarmaient contre la montée de l'islamisme qui saperait les bases de la République. Vous, à l'inverse, Éric Fassin, je suis désolé, je vais aussi tout à fait à l'essentiel, mais voilà, vous avez beaucoup critiqué la pénétration de logique islamophobe au sein même, à droite, on le sait, on le voit, mais au sein même de la gauche, et notamment en voyant dans le printemps républicain l'un des vecteurs de cette idéologie islamophobe. Et moi, je me demandais si... j'ai essayé d'esquisser rapidement vos nuances sur le sujet. Désolé si je les ai un peu caricaturées, mais j'allais à l'essentiel. En même temps, vous avez une autre, du coup, différence quant à l'appréciation du populisme. Vous, Lenny, vous y voyez plutôt un outil pertinent, et vous, Eric, beaucoup moins. Et je me demandais si ça se recoupait, parce que j'ai le sentiment... Je suis que sur le cas français. Je vous demande de faire abstraction des autres pays, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, en France, une bonne partie, pas tous, mais une bonne partie de celles et ceux qui, disons, plaident, avec différentes nuances, mais pour l'option populiste, voilà, soit sont issus peut-être du courant chevènementiste pour les plus anciens, soit ont une sensibilité un peu comme ça. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Est-ce que ces deux questions, ces deux clivages, populisme ou pas, et comment on se positionne vis-à-vis des questions d'islamophobie, est-ce que ça se recoupe tout ça? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est une projection de ma part?
C'est vrai qu'il y a dans l'appropriation de la stratégie populiste, il y a une partie de la première gauche, et on va dire jacobine, qui a trouvé des points de connexion qui faisaient que précisément, qui facilitaient en fait cette appropriation. Mais ce n'est pas forcément vrai parce que les théories de Chantal Mouffe sont beaucoup plus liées à la deuxième gauche, etc. Mais pour revenir rapidement sur ce que vous avez évoqué, déjà, c'était en 2015. Moi, j'avais juste signé le manifeste auquel je voyais pas de problème et j'avais pas la liste des signataires. Donc après, je me distancie radicalement des méthodes du printemps républicain et de toute logique de construction d'un ennemi musulman et d'un ennemi intérieur de façon générale que je trouve dangereuse. Et donc voilà, j'ai jamais adhéré je le referai pas. Je ne crois pas qu'on puisse superposer, en tout cas, le clivage sur la laïcité qui existe à gauche depuis un moment au clivage sur la stratégie populiste, puisqu'il y a des gens qui sont très anti-populistes, disons, dans ce champ peut-être un peu valsiste, où ils l'ont montré à de nombreuses reprises. Et donc, ça, je pense que ces questions stratégiques sont venues justement après. Et personnellement, par exemple, en 2015... j'étais pas encore familier de ces stratégies-là. En tout cas, pour parler de ce que je connais, dans la dynamique d'appropriation de la stratégie populiste et de qui s'est approprié ce type de stratégie-là, en réalité, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont associé à une forme de retour du jacobinisme, il y a beaucoup de gens qui viennent de traditions très différentes. Et moi, je le vois dans Le Vent se lève, si je dois en parler un petit peu. On s'est retrouvé sur les mêmes positions stratégiques avec des amis qui viennent du trotskisme, de traditions mouvementistes. Je pense que c'est quelque chose de nouveau en réalité et que ça redéfinit, en fait, ça sublime des débats et des espèces de blocages de la gauche qui existent depuis 30 ans et desquels elle ne s'est jamais relevée parce qu'elle s'est toujours enfermée dedans. Et donc, de ce point de vue, pour revenir à la question l'islamophobie, etc. Nous, on essaye précisément d'éviter de tomber dans ces polémiques interminables et de construire l'agenda sur d'autres sujets. Après, c'est un débat qu'on peut avoir, et je pense que c'est un débat important, au fond, pour lequel il faudrait consacrer beaucoup de temps. On essaie de proposer une ligne de crête, une autre voie qui n'est ni la construction d'un ennemi musulman, ni non plus... je pense qu'il y a aussi parfois des positions problématiques qui peuvent s'exprimer dans le champ de l'antiracisme politique avec lesquelles personnellement je ne suis pas d'accord. Mais en tout cas, on essaie de pas du tout participer à la construction du débat sur ce terrain-là parce que je crois qu'en fait, on perd systématiquement dès qu'on le fait. Mais c'est peut-être un sujet sur lequel on peut discuter.
Vous, Eric, vous êtes partie prenante de ces...
Oui,
de ces débats.
Y compris, je fais partie des gens qui appelaient à la manifestation contre l'islamophobie du 10 novembre. Donc, mais après tout, Mélenchon aussi.
En plus.
Donc, enfin, je ne me mets pas dans la même catégorie, mais je veux dire que si on dit non, mais dans le rapport au populisme, oui. Non, ça n'était pas
puisque,
une manière.
Non, mais puisque
de,
voilà. C'était la question, voilà. Pour moi, c'était de savoir si ça avait un lien avec le débat sur le populisme.
Voilà, donc il y a des gens comme moi qui sont critiques du populisme de gauche, et il y a des gens comme Mélenchon qui revendiquent le populisme de gauche. C'est ce que je voulais dire, ce n'était pas une remarque plus présomptueuse qu'elle n'en a l'air. Mais ce que je voudrais suggérer, c'est que, effectivement, pour moi, c'est un combat aujourd'hui important, parce que ça a à voir, comme vous l'avez dit, avec la construction d'un ennemi intérieur. On peut parler de racisme, c'est-à-dire du lien entre la xénophobie et le racisme en France. On sait bien sûr que la religion n'est pas une race, mais comme les races n'existent pas, en fait, on sait bien qu'à travers la religion, on peut racialiser des gens. C'est toute l'histoire de l'antisémitisme, par exemple. Donc, je crois qu'il se passe en ce moment quelque chose de grave, qui a des rapports avec ce moment néofasciste dont j'ai parlé, et que donc, nous ne pouvons pas faire l'économie de cette question, malheureusement. Ça ne veut pas dire que je sois d'accord avec tout ce que tout le monde dit, etc., mais ça veut dire que cette question-là, je crois qu'elle est très importante. Après, puisqu'on essaie de réfléchir au lien avec la question du populisme, je crois que penser un peuple unifié, ça n'est pas tout à fait la même chose que la logique ancienne de Laclau et Mouffe, qui était celle des chaînes d'équivalence. Et que le passage des chaînes d'équivalence, c'est-à-dire quelque chose qui était, essayait de faire tenir ensemble des logiques très différentes, et l'unification ou la fédération d'un peuple, ce sont deux logiques assez différentes. Donc je me sentirais plus proche de la logique ancienne que de la logique actuelle des travaux de Chantal Mouffe.
Pour la Clao, une chaîne d'équivalence est un peuple, précisément. Mais, Mais en tout cas, dans la raison populiste.
Dans la raison populiste. Donc c'est une évolution, parce que, évidemment, ce n'est pas là que ça a été d'abord formulé. Ça a été formulé...
C'est vrai qu'il y a des différences entre le bouquin de 85 et celui de 2005, mais dans celui de 2005, il essaie de s'extraire de tout contenu axiologiquement situé.
Mais justement, c'est là la divergence, de même que entre 2012 et 2017, pour Mélenchon, de même, 85 et 2005, ce n'est pas la même chose. Et en 85, ce que fait Laclau avec Chantal Mouffe, c'est de proposer une critique du marxisme qui complexifie la notion de classe. Ça n'est pas la même chose que de fédérer un peuple. Je crois que là, il est un peu coûteux d'abandonner ce projet, même si aujourd'hui, la droite et la gauche sont moins à la mode.
En tout cas, c'est une discussion, on le sent, on le voit, aussi fine que potentiellement on pourrait aussi poursuivre, tant elle soulève de beaux et de graves aussi sujets. Je vous remercie beaucoup pour vos contributions ici et puis dans vos ouvrages respectifs. J'espère que la discussion se prolongera et qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.